Ah, c'est bon, là, non, normalement c'est bien.
Voilà, c'est
Ah,
très bien.
voilà, là, je vois ta coupe. Bien. Je vois mieux la
Là, tu
définition.
vois, Cameroun.
Tout à l'heure, c'était un peu flou. Tu vois, il y avait des petits. Là, c'est mieux. Allez, présentez-vous une quatrième.
Même l'image, elle est mieux. Même l'image.
Bon.
Allez, c'est parti, c'est la troisième, là.
Jamais 203.
Salam alaikum. Ici les randonneurs de la pensée, Mohamed avec vous, Enes. Salam alaikum, Enes.
Salam alaikum.
Sébastien.
Walikum salam wa
Celui qui va venir
rahmatullah
aussi animer un petit peu la soirée et un invité que je vais laisser Sébastien en proposer. Sébastien, moi aujourd'hui, moi ce soir, moi et Sébastien, on a la particularité, c'est qu'on a fait une demande de voyage groupé en Turquie. On a été refusé. Le prix de groupe, le prix de groupe, il y a pas, donc faut y aller. Mais on avait les vaccins, les tests PCR, mais ça a pas marché.
Le tarmac, il était trop prononcé.
Donc il y a rien à faire, irrécupérable.
Hey,
Bon.
j'ai lu un sondage, hein. Il disait que les femmes préféraient les hommes sans.
Chauve.
Ah, chaud. Ah,
Ah,
ouais,
ok.
ils ont plus de succès.
C'est vrai?
Ah, c'est un sondage, c'est véridique. Hein.
Ah, dans le 4, dans le 93,
Ça
dans le
inspire la
93, alors.
sécurité. Il y a là
Ah
qu'un homme chauve, ça inspire la sécurité. Il n'a pas de cheveux, mais ça inspire la sécurité.
ouais. Mais c'est pas par rapport à chauve qui peut, non?
C'est possible. Et il fait de l'humour aussi. Faites
Ah,
attention.
Julia. Donc, on va essayer l'Albanie, on va essayer l'Albanie.
Voilà.
L'Albanie, ils sont un peu plus ouverts, avec du burak.
C'est un plaisir de vous voir, les frères.
On a déjà mis l'invité dans le bain alors qu'on l'a même pas présenté.
C'est vrai.
Vas-y, je te laisse. Bismillah.
Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous un ami, un frère. Donc, on pourrait le qualifier un peu de l'as de l'improvisation, le virtuose du stand-up.
Oh.
Faites un maximum de bruit pour Hussein Power. Sous un tonnerre d'applaudissements, Hussein. Alors.
J'ai vu les applaudissements, primo. Vous n'avez pas un
Donc,
bouton qui est appuyé, il y a des applaudissements, des rires, un
je
suivi.
Donc, Hussein, c'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'humour, du comique depuis, je pense, un peu plus de 15 ans, si je me trompe pas.
Ah, oui. Je peux vous dire que l'humour, c'est quelque chose de très sérieux.
Dis-moi, on va te présenter.
Comment?
L'humour, c'est quelque chose de très sérieux. On rigole pas
C'est
avec
vrai.
l'humour.
Donc peut-être, Hussein, comme il a dit Mohamed, on va te laisser te présenter, toi qui vas un peu parler de toi, de ton parcours, et puis expliquer d'où tu viens et comment t'en es venu à l'humour.
Voilà. Donc, on aura compris que c'est une randonnée humoristique,
Oui.
un peu moins sérieuse
Que d'habitude.
que d'habitude. Et peut-être, si, peut-être justement, c'est une affaire sérieuse, comme tu disais.
Déjà,
Allez,
de
vas-y,
demander
c'est à
qu'est-ce que
toi.
c'est que ça, c'est. Il y a une corde ici, là.
Ouais, je sais pas. Après, on dirait que t'es dans une cache, mais on dira rien. On dira pas où
Ben
t'es. C'est
voilà,
pas
mais je veux pas donner
quelque part à Paris.
d'informations.
C'est un endroit où faut pas mettre le pied.
On sait pas si
On
je suis en
dira pas si
France
c'est dans
ou
le
pas, je
93 ou dans le
sais
93. Mais c'est pas grave. Mais allez.
pas. Ah, c'est pire que Bogota ici, je vous le dis. En tout cas, ben, c'est toujours difficile de se présenter soi-même. On est toujours mieux présenté par les autres. Moi, c'est donc Hussein Power. C'est un nom de scène, bien sûr. Hussein, c'est mon vrai prénom. J'ai commencé l'humour en 2009-2010, comme ça. Et j'ai accroché, et les gens aussi, ils ont accroché à mon humour. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, je continue à faire de l'humour, mais j'ai transformé ça à un moment donné en vidéo, avec le groupe Open Bar, qui a cartonné, qui a fait des millions de vues, alhamdoulillah, sur les réseaux sociaux. Au début, je savais même pas comment ça fonctionnait, on filme une vidéo, j'ai une idée, vas-y, tiens, fais ça, hop, on fait un montage, hop, tu balances, tu dis, wow, 1 million de vues, ah, c'est
T'as
bien.
quel âge aujourd'hui? Parce que t'as été très vite. T'as quel âge aujourd'hui?
Ah, à ton avis, j'ai quel âge? Parce que c'est pour ça, il faut aller vite, hein, on n'a pas le temps, là.
J'ai pas 17, 18 ans.
Merci beaucoup. Oh,
C'est
ah
rien,
ouais,
c'est
quand tu viens
cadeau.
d'avoir 22 ans, t'es en train
Cadeau.
de me narguer, c'est tout.
C'est cadeau. Toi-même, tu sais.
Non, là, ben, c'est difficile à dire, hein, quand je dis difficile. Ah, les gens, ils me disent, mais
Non,
tu
en
sais qu'il
fait, la
y a.
question, elle cache autre chose. C'est quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'humour, à la
Très très
scène, au
tard,
spectacle?
très très tard parce que ben forcément, ben, moi j'ai pas du tout suivi un cursus humoristique au début. Hein, on a fait tous la plupart des trucs, on est soit en mécanique, soit en électricité, soit en voilà quoi, voilà. Et les filles en comptabilité ou en coiffure. Et tu dis à un moment donné, tu découvres l'humour, le théâtre et tout, tu dis bah c'est pas mal, donc t'as envie de tester, tu t'accroches un peu. Et j'ai fait, je me rappelle, c'était un genre de tremplin, un concours d'humour à la MJC de Corbeil-Essonnes. Donc il y a un
D'accord.
ami qui était, enfin quelqu'un qui était dans le jury, Zama, qui m'a dit il y a un concours, un tremplin, viens t'inscrire et tout. Moi j'avais pas fait, jamais fait d'humour. Je dis bon vas-y, je vais écrire et je vais venir, tu vois. Et c'était ouais 2009 exactement. Et donc je joue et je me savais pas, parce que moi j'écrivais, en fait la première fois que j'écrivais en stand-up, parce que je savais pas ce que c'était le théâtre ni le stand-up, parce qu'il y a une différence, tu vois, entre le quatrième mur, ceux qui parlent avec des personnages. T'as des gens qui peuvent arriver et dire, Ah, bonjour monsieur l'avocat. Et donc il discute tout seul et les gens ils les regardent, ils rigolent. Et moi j'avais l'instinct de parler aux gens en fait directement. Ouais. Et dans cette soirée, il y avait que des gens qui faisaient des sketchs. Et j'étais le seul à faire du stand-up. Donc ça a dénoté en fait complètement, c'était complètement différent et j'ai senti vraiment que ouais, les gens ils appréciaient quoi et que ça rentrait dans un autre domaine et c'était de l'improvisation, pas de l'improvisation, j'avais écrit, mais c'était du tac au tac avec les gens, c'était de la proximité et de l'échange quoi. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ma première scène, contrairement à d'autres humoristes peut-être qui ont eu une mauvaise expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent ça, moi, la première expérience, elle était top. Le luxe.
Donc sans être péjoratif, c'est un public de quartier, c'est ça ?
Il y avait public de quartier, après il y avait un peu de tout. C'était pas forcément public de quartier, c'était MJC de Corbeil-Essonnes. Attention à pas confondre avec Corbeil-Essonnes, c'est vraiment MJC, donc les mecs de quartier vont pas forcément à la MJC, tu vois, de Corbeil-Essonnes, payer une place de théâtre pour voir de l'humour ou du sketch, tu vois. Il y avait un peu de tout. Il y avait des gens de banlieue, bien sûr, mais des adultes, hein, des trentenaires, des hommes mariés, des femmes, un peu de toute origine. Et c'était vraiment agréable, en fait, ma première scène. J'ai vraiment kiffé. C'est ce qui a fait que...
Donc, déjà, tu avais déjà vocation à te lancer dans le divertissement, dans le spectacle?
Je me rappellerai toujours. Il y avait une fille qui m'a. Enfin, j'étais au lycée. Et moi, j'aimais bien faire rire mes camarades.
On commence à déjà deviner ton âge. Vas-y, t'es au lycée, c'est parti.
Ça commence. Voilà. Je commence à, ouais, ça vous, là, il va faire des calculs. Il est bon en mathématiques, lui?
Ouais, 1+1, ça fait 1.
Non, Inch'Allah. 1+1, ça fait 2, galèques. Donc, j'aimais bien faire de l'humour, tu vois. Juste à l'école, déjà, par exemple, je me rappelle. Ah, je vais donner un exemple, tu vois. On était en classe, imagine-toi, contrôle de trucs techno, etc. et tout, tu vois. Enfin, je sais plus, c'était comme quelle matière physique ou un truc comme ça. Ouais, je me rappelle plus comment on appelait cette matière.
Lui aussi, il se rappelle pas de toi.
C'est sûr. Mais non, je pense qu'il se rappelle parce que, par exemple, regarde, on était en contrôle. Tout le monde en contrôle. Et là, on est presque à la fin de l'heure, tu vois. Presque à la fin de l'heure, ça y est, ça va bientôt sonner. Et moi, je lève le doigt et je pose une question. Et qu'est-ce que je pose comme question? Je dis, monsieur, excusez-moi, la première question, en fait, parce que moi, je viens de commencer, je dis, c'est quoi la première question? J'ai pas compris. Et tout le monde est mort de rire parce que, normalement, t'es censé vers la fin.
Ouais, c'est ça.
Et moi, je suis sur la première question. J'ai pas compris la première question. Et les gens, ils étaient morts de rire, etc. Et tout. Donc, je me dis, j'aimais bien faire des petites blagues, mais le problème, c'est, j'avais rempli le truc, hein, quand même, mais c'était juste pour la blague, tu vois.
D'accord.
Et je me rappelle, il y a une fille qui est venue me voir, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'humour et tout, t'es trop marrant. Et je te jure, ça m'a fait une percussion dans la tête, tu vois. Ils me disent, humoriste, humour. Et c'est de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ça. J'ai, les cours de théâtre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas. Et j'ai commencé à découvrir, quoi.
Et il y avait déjà des modèles à l'époque, déjà dans le.
Jamel, il y avait à l'époque, il y avait Jamel Debout,
il y avait déjà diversité. Il y avait déjà un début de diversité au niveau.
Oui, ça commençait déjà, oui, c'est clair.
C'était des modèles pour toi ou tu t'es vraiment.
Ouais, j'ai beaucoup regardé Jamel, forcément, qui avait fait un bon énorme. J'aimais bien aussi Raymond DeVos. Moi, je suis très. J'aime beaucoup les jeux de mots, etc. et le langage. Donc, je trouve que c'est une force. Coluche, forcément.
Ah, j'attendais Coluche, j'attendais.
L'humour. Ah, c'est vrai, mais tu sais que Coluche, il faisait du stand-up, hein, c'est incroyable, mais si tu regardes aujourd'hui les vidéos de Coluche, c'est un rire toutes les 6 minutes, quoi. Toutes les 6 secondes, toutes les 6 minutes. Non, toutes les 6 secondes.
Ah, 6 minutes, c'est impressionnant. C'est hollywoodien, ça.
6 minutes, c'est un spectacle.
Tu t'endors.
T'imagines un rire toutes les 6 minutes. Ah, c'est. Mais j'ai accroché, et alhamdulillah, jusqu'aujourd'hui, j'ai sollicité sur l'humour et je suis devenu auteur aujourd'hui. C'est que maintenant j'écris en fait. J'écris pas pour Daniel Lerus notamment, qui est un youtubeur très connu ici en France. Hein. Je sais pas si chez vous il est connu aussi.
Si, qui est avec toi dans le collectif Open Barb.
Collectif Open Barb, exactement. Il y a, après, il y a Momo Ben qui est aussi pareil là, avec son petit accent du bled et qui a fait aussi pareil. Un truc. Bon, après Jamel aussi, j'écris lui, c'est un imitateur, mais j'écris aussi pour lui, Jamel Kaibou.
Oui, très très connu. Qui a fait les guillemets de l'info et comment tu.
Un truc, il est passé chez Hanouna. Et vraiment, moi, j'aime bien écrire. Donc, donc maintenant, je suis dans l'humour, dans la technique. J'essaye de. Et j'écris aujourd'hui maintenant des scénarios. Donc là, on a on est monté comme ça. Au début, j'étais sur scène. Après, j'ai commencé à monter sur les vidéos YouTube. Et maintenant, je vais aller. Je sais pas.
Comment ton projet professionnel, parce que. comment ton projet professionnel, parce que même si c'est de l'humour, c'est un travail. Hein, c'est,
bien sûr, bien sûr.
Ça reste un milieu professionnel.
C'est
pour ça
que je dis, l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Attention.
Ouais, c'est la seule chose que tu dis sérieusement en plus. Le reste, on a des doutes. Mais je veux dire, d'un point de vue dans ton début de carrière professionnelle, ton projet professionnel, comment ton entourage familial le vit? Est-ce qu'il y a derrière une motivation? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que au niveau des, quand je dis familial, parce que je
forcément, sais que forcément, moi, c'était un peu, comment on dit, partagé. J'étais soutenu par les uns, rejeté, mais voilà, un peu sermonné par les autres, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humour, on est, quelle place a l'humour aujourd'hui, même nous moi, je suis musulman, donc je suis ici d'une famille musulmane. Le théâtre, c'est pas dans notre culture forcément, de monter sur scène, ni de faire des vidéos, ni de faire des montages, c'est pas dans notre culture. Et nous, nos parents, ils ont pas connu ça, ils sont venus, voilà, même les ordinateurs, aujourd'hui, Internet, tout ça, ça va trop vite pour eux. Et donc, je me dis, oui, c'est vrai qu'on n'a pas connu, ni dans ma famille, moi, quelqu'un qui faisait de l'humour ou qui était dans ce domaine-là. Et je suis un des premiers, on va dire, dans ma famille, quoi, pour moi. Tu vois? Et donc, je me dis, ouais, c'est vrai que tu découvres, et il y en a un qui, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu, les parents au début qui sont un peu, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le guignol, le rigolo, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie.
Ouais.
Hein? Bon, après, voilà, quoi, c'est normal. Jusqu'à au jour où après t'achètes une Porsche, bon, là, ils commencent à dire, bon, c'est bien quand même comme métier, faudrait que ils continuent à faire plus de blagues, mais beaucoup plus, voilà. Mais, en fait, je me dis ça, je rigole, hein, mais c'est vrai que quand ça paye, forcément, tu dis, les parents, ça les met d'accord, mais ils ont toujours peur, je pense que, on perd notre temps ou, après, qu'on soit peut-être égaré.
Donc, leur inquiétude, c'était pas l'image, c'était la stabilité. Parce qu'on parle de rapport financier, c'était plus la stabilité ou l'image ou les deux?
Je pense qu'il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Donc, forcément, quand tu commences dans l'humour, tu roules pas sur l'or, hein, pour te faire connaître. Parce que avant, une carrière d'humoriste, en moyenne, ils disent, c'est entre 5 et 7 ans pour qu'un humoriste, il soit bien mûr. Il faut que t'aies tourné bien pour pouvoir, mûrir ta plume, mourir, sur scène, être une position et même défendre des sujets ou, maîtriser en fait ton domaine et c'est pas faux, quoi. Je me dis, ouais, faut du temps pour maîtriser la scène et pendant ce temps, des fois tu peux ne pas gagner d'argent. Moi, j'ai fait des scènes gratuites, on a fait des scènes avec des chapeaux, on sait très bien ce que c'est les chapeaux, je sais pas si tu connais, avant d'arriver aujourd'hui à notre statut où on est connu, où on a fait des vidéos où les gens me reconnaissent dans la rue, ils me disent, ah toi t'es truc, ouais je t'ai déjà vu, donc, c'est sympa aujourd'hui maintenant, donc t'as une petite reconnaissance, donc ça permet à ce que les gens te disent, ah toi je te connais, je sais que t'es drôle. Donc, ton budget ou ton cachet va être plus important. Mais et je me dis, je pense aussi qu'il y a des humoristes qui commencent. Donc, tout démarrage, en fait, je pense, dans toute carrière, que ce soit même football ou tout ça, tout est difficile, en fait, avant d'avoir un bon statut.
À quoi t'attribuerais l'étape du difficile à. Enfin, l'étape de lancement, de projet, de lancement, à arriver à la maturité, etc. C'est quoi? C'est le fruit d'un travail? C'est du réseautage? C'est de la chance. Quand on dit de la chance, c'est minable.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je me rappelle, Open Barb, je me rappellerai clairement.
Tu pourrais expliquer tout à l'heure ce que ça, parce que on t'en parle, parce que toi, t'en connais.
Mais
nous, on connaît pas le projet Open Barb.
Racine, ça va te rappeler des souvenirs, ça.
Ah oui. expédition directe.
Ça évite la Turquie.
Pour les gens, si vous voulez regarder, c'est ça, c'est ça notre collectif qu'on avait, Open Barb. Et donc, on faisait des vidéos sur YouTube, etc. et tout. Et en fait, c'est ça, c'était un groupe. Et moi, ce que j'aime bien, ce que je dis souvent, la baraka, elle est dans le groupe. Mmh. Entre nous, c'est ça, c'est que je pense que moi, j'aime bien le côté de travailler avec les gens, de partager l'union.
L'amitié.
Ouais, l'amitié. Et l'union fait la force, je trouve que.
Voilà.
On réfléchit mieux à trois cerveaux, par exemple, qu'à un seul, tu vois.
Ah bah oui.
Et moi j'aime bien ce côté où je me dis, de toute façon tu peux pas réussir tout seul pour moi, c'est impossible.
C'est vrai.
Et celui qui réussit tout seul, c'est juste qu'il a écrasé les autres, quoi.
Mais Hussein, c'est quand même toi le fondateur et le cerveau de Open Barb à la base.
Le cerveau, fais gaffe, on dirait une commanditation spéciale.
Avec cash dans le 93.
Ouais, c'est ça.
Ouais, grave. Mais précisément, voilà, c'est ça, c'est qu'on est parti de. Moi je me rappelle, j'ai joué sur scène. À Paris, je rencontre Daniel Le Russe, il était pas du tout connu, pas du tout d'abonnement, ni d'Instagram, ni rien du tout. on commence à se faire amis amis. J'ai dit, bah écoute, viens, moi j'aime bien qu'il y ait des nouvelles personnes, viens, on partage, on crée des trucs. Et de... Donc il est commencé à venir sur scène, et on a commencé à échanger, et puis à discuter. Et ben, ce groupe, cette baraka, en fait, je lui dis, bah viens. Et je lui dis, c'était un truc que j'avais écrit un an avant, en fait. Là, j'écrivais des petites vidéos dans mon coin, tu sais, des petits trucs pas de chance, tu vois. Et j'écrivais, je toquais, et je me dis, ouais, j'aimerais bien faire une petite vidéo. J'avais une idée, c'était un thème, une vanne, une vidéo, tu vois.
Ouais.
C'était un peu comme une blague carambar, quoi. Je voulais faire un peu. Et je me dis, bien, et j'ai commencé, ça s'appelait pas de chance. C'est une situation, une galère, quoi. Et on a commencé à tourner autour de ça, et je me dis, ah, ok, c'est devenu le concept, quoi, pas de chance. Et je me dis, là, un an avant, et j'ai dit, il y a beaucoup de projets, en fait, où, tu sais, t'écris un peu, tu notes, et puis tu mets du temps avant de les mettre, comment dire, en exécution, quoi.
Oui, oui. Donc, Open Barb, c'est un
collectif d'humour.
Un collectif d'humoristes qui travaillent ensemble, qui mutualisent leur savoir pour produire des pièces et faire des écritures
c'était,
et produire
c'était,
des pièces.
C'était des courtes, on a fait spectacle sur scène, on a fait, on a diversifié un peu, on faisait les vines à l'époque courte, on a fait des vidéos sur YouTube.
D'accord, ok. Et donc, pour revenir à ma première question, c'est à quoi t'attribues le résultat de ton travail aujourd'hui? Forcément, c'est toujours du. L'effort, parce qu'on dit qu'après l'effort, il y a la récompense. Mmh. Mais toi, où tu sais tirer, c'est vraiment le point d'étape où tu te dis, c'est à ce moment-là que ça a commencé à être sérieux, ça a commencé à décoller. À quel moment? C'est du réseautage, c'est de la chance, c'est du.
Moi, j'ai l'impression que c'est selon la personne et ses envies. C'est-à-dire que moi, je suis croyant. Donc, cette personne, il me connaît.
Oui.
Et je pense que plus on a confiance et plus les choses avancent. Tout simplement. Parce que je me dis, en fait, nous, on régit. Moi, je gère rien. Je suis. On a des qualités, chacun, on a des qualités, des défauts qu'on a. Et je me dis, chacun, il a son caractère. Et moi, j'ai ce caractère ou ce don. J'arrive à écrire des choses, même pour les autres. Et j'arrive à m'adapter, en fait, même aux autres. C'est que j'ai vu. C'est difficile d'être auteur, tu vois, pour plein de gens. Et je dis, tu trouves un auteur, il va être auteur, mais pour lui, il va être bien pour lui, mais pas pour lui. Et moi, c'est ce truc où j'essaie de comprendre. J'ai une certaine empathie. Je vais essayer de d'écrire avec les gens, de comprendre des gens. Donc, je pense que quand t'as un petit, ce petit truc-là, je pense que c'est. C'est quand tu fais les choses avec le cœur, en fait.
Hussein, juste, est-ce que en bientôt 15 ans...
On dirait deux Maltasers qui discutent.
Mais chocolat blanc. Est-ce que dans ta carrière, maintenant ça fait bientôt 15 ans que tu fais ça, est-ce que certaines personnes comme des gens connus que tu as rencontrés sur ton chemin, comme je pensais par exemple au comte de Bouderbala,
bien sûr.
Kev Adams, aussi Waïd
Bouzidi, qui m'a vraiment une très bonne personne.
Que tu as fait sa première partie aussi, je me souviens. Est-ce que tous ces gens-là, c'est sûr qu'ils t'ont forcément apporté, mais ils t'ont aussi aidé. Ils t'ont aussi aidé, je pense.
Ah, bien sûr. Énormément, parce que je pense, déjà, Waïd, qui était un des premiers, en fait, à me tendre la main aussi, qui me faisait faire ses premières parties. En même temps, parce qu'il me trouvait drôle, et en même temps, c'était vraiment quelqu'un de très humain, et c'est une belle personne, tu vois. Il y a eu aussi Bouchra Beno, par la suite aussi, qui est vraiment une femme formidable, tu vois.
Oui.
Et, de fil en aiguille, forcément, eux, ils te donnent de la visibilité. Donc, si eux, ils te donnent de la visibilité, tu prends du crédit chez les autres. Parce que forcément, ils disent, il fait la première partie de Waïd. C'est pas rien. Je faisais même des tournées avec lui. Il allait à Nancy, j'allais avec lui. Il allait là, j'allais avec lui. Tu vois, donc c'est vraiment.
À peu près 1h10 de Paris, quoi.
Ouais, c'est ça. J'ai fait la première partie aussi de Kev Adams, le comte de Bouderbala, c'est vrai aussi.
Je me souviens.
Non, c'est vraiment intéressant, en fait. Et après, j'ai joué aussi au Comedy Club, faut pas oublier.
Jamais le Comedy Club.
Ouais, j'ai joué pendant 2 ans, on va dire régulièrement en plus.
Deux saisons.
Ouais, c'était avec l'époque de Malik Bentala, etc. Ouais. Donc non, ça va, c'est-à-dire que j'ai côtoyé des gens, j'ai vu qui entre guillemets, on se rencontre, et il y a des belles personnes, il y a des gens qui sont vraiment là, entre guillemets, qui partagent entre guillemets avec le cœur, en fait, leur la scène, et d'autres qui sont un peu plus c'est différent, c'est une concurrence, il y a deux écoles, en fait.
Je voulais revenir sur deux choses. La première chose là, c'est sur le
tu as parlé de croyances et tu as parlé de réseaux sociaux. Donc, je vais revenir, je vais séparer les deux. Quand tu dis croyances, donc, je sais que souvent, quand tu entends des humoristes à la télé qui disent on peut rire de tout, on peut pas rire de tout, donc il y a les différentes écoles qui te disent. Je me rappelle que le comte Bouderbala, il avait été critiqué pour son sketch sur les Roumains.
Ouais, oui.
Parce que voilà, c'était pas. Voilà. Et d'autres sur les races. Ont été critiqués. Bien sûr, en tant que musulman. Est-ce que tu t'es mis, des limites, des freins, de l'autocensure, ou est-ce que justement ça t'a servi de moteur en disant nous en tant que musulmans, on peut.
Moi en fait c'était tellement naturel en fait, c'est-à-dire que moi je me suis jamais mis des freins, c'est tellement naturel. Moi je me dis il y a des choses je peux pas parler naturellement parce que dans ma vie moi-même j'en parle pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais pas si t'arrives à me comprendre.
Si.
Ben voilà, si je dis dans la vie, je sais pas moi, je bois pas d'alcool, truc, je vais pas faire un sketch pour l'alcool ou tu sais, c'est vraiment c'est juste une idée quoi que je dis comme ça, c'est un exemple.
D'accord.
Et c'est ça, c'est que c'était inné, c'est-à-dire que c'est devenu simple. Et des choses, oui, je me suis écarté parce que je me dis ouais ça m'intéresse pas, ça c'est des sujets que je veux pas aborder. Et des choses vraiment je me rappellerai toujours. Et des fois il y a des humoristes qui étaient sur scène et moi je dis, tu sais je m'éloignais parce que je me dis ouais je veux pas écouter ça ou ça me dérange. Moi,
ouais,
c'est comme quelqu'un qui aime pas les insultes. Et moi par exemple les vidéos d'humour open bar. Et c'est peut-être aussi beaucoup pourquoi les gens nous ont aimés, on a fédéré, c'est qu'on mettait pas de vulgarité. J'ai toujours mis un frein à tout ça. On a dit, écoutez, okay. Pas de vulgarité et pas de choses voilà, obscènes. Et, mais je me rappelle, j'avais des mères de famille, des fois, qui m'envoyaient des messages en me disant merci beaucoup. Et vraiment, il y a des messages très touchants, en fait. C'est ça qui me donne en fait, envie de continuer. Une fois, j'ai eu un message d'une dame qui me dit, ma fille, elle a le cancer. Tu vois, où son enfant a le cancer. Et en fait, elle rigole quand elle voit vos vidéos. Et juste ça, c'est inestimable. Ça touche, ah oui. Quoi.
Machallah.
Et bah voilà, rien que ça, tu me dis, c'est bon, moi j'arrête.
T'as gagné.
C'est mon travail, quoi. Tu vois.
Donc, Hassine, on pourrait dire que tu fais un peu de l'humour halal.
Si on veut, alors que moi, même moi,
moi ça me dérange,
t'es que l'humour halal. Est-ce que je fais de l'humour?
J'ai fait exprès parce que je sais que Mohamed il allait pas aimer ça.
Non,
je dis ça parce qu'aujourd'hui on essaie de trouver un label dans tout ce qui est halal. Ça. Non.
Moi, c'est un truc qui me fait rire. C'est quand il y a des boucheries, il y a marqué 100% halal. Et je dis parce que ça existe.
Ah, ça existe alors, ça existe vraiment.
Non, mais 50% ouais. Ça existe, 50% halal.
Okay. Ouais. Non.
Donc c'est. Mais bon, moi en tout cas, non, je pense.
Et donc aujourd'hui, il y a une place pour cet humour. J'ai pas envie de dire pudique ou modeste, mais il y a une place aujourd'hui
Il y en a toujours eu, je pense que.
Ah, parce que je vois
tous les humoristes sont pas trash, quoi. Il y a des humoristes. Moi, je pense qu'il y a une génération à un moment donné, ou même il y en a toujours, hein. Les humoristes, c'est très, très. Il y a des spectacles que tu peux pas voir en famille. Voilà, faut dire la vérité. Nous, moi, je pense que si je fais un spectacle, c'est pour tout le monde. Donc, je veux D'accord. qu'il y ait des petits, des jeunes, des vieux, des mamans, des papas, et je veux pas qu'ils soient gênés en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, on sort, tu vois.
Souvent la question quand je vois des humoristes après je juge mais j'ai envie de dire je juge pas mais je juge mais quand je vois des humoristes issus de la communauté maghrébine ou africaine donc qui ont des valeurs pas forcément musulmanes hein, mais même africaines qui ont des valeurs peut-être familiales un peu plus importantes qu'en Occident je me dis mais comment ils arrivent à sortir ces blagues là même si tu peux en rigoler en sachant que ta mère ou ton père peut les voir, je veux dire. Comment il arrive à. Est-ce qu'il a dépassé certains de ses principes pour arriver à un succès ou est-ce qu'il est comme ça en fait?
Mais oui, je pense qu'on peut glisser dans le sens où. Parce que l'humour, c'est. T'écris, c'est du texte, tu joues. En fait, des fois, tu joues régulièrement. Moi, des fois, ça m'arrivait de jouer 3 ou 4 fois par soir. Tu vois, tu vas là, tu joues là, tu joues là, et des fois tu testes, tu trucs, et ça peut arriver que des fois tu testes des trucs ou tu fais des trucs, et après tu dis, j'ai dit ça, mais c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux à un moment donné arriver à faire des erreurs, mais c'est parce que le fait d'avoir, même dans l'ambiance, hein, l'ambiance, avec plein d'humoristes qui font que ça, et t'es dans une soirée, des fois tu peux déraper, tu vois, donc c'est pour ça que c'est. Voilà. Je pense que l'idée, c'est pas de déraper ou de dire on peut déraper. L'erreur est humaine.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire. On peut tous faire des erreurs, même en voulant bien faire. On peut avoir une vanne de trop ou un truc qui passe pas, un truc raciste ou un truc, et ça arrive. C'est-à-dire que, même si c'est pas volontaire, même si on ne l'est pas. Tu vois, moi, j'ai vu plein, aujourd'hui, il y a plein de sketchs que tu regardes aujourd'hui, d'anciens, par exemple, humoristes, tu vas le mettre aujourd'hui, ils ont tous des procès, ils sont tous en prison.
Ah, c'est sûr.
Donc, je dis, il y a un temps, toute chose à son temps, et je pense que oui, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Je me dis, prendre le temps et surtout connaître sa direction, en fait. Et moi, j'ai mis du temps avant de peut-être de comprendre tout ça. Des fois, tu réfléchis par instinct, des fois, tu écris, voilà, comme ça. Le truc, et j'ai pris du temps à comprendre ce que c'est d'écrire, comprendre ce que c'est de dire des choses aux gens, des mots, l'importance de la respiration, etc. Donc, c'est vrai, c'est un travail, en fait. Et je me dis, ouais. Et au fur et à mesure, ouais, on peut glisser et il faut faire attention. Parce que des fois, c'est la facilité aussi, des fois. Parce que souvent, ils disent, j'ai un truc, la vulgarité et tout ça, forcément, c'est comme t'es enfant, pipi, truc, ça fait rire les trucs. Bon, voilà, c'est des vannes. Et donc, c'est facile. Et les gens peuvent tomber à un moment là-dedans, c'est vrai.
T'as raison, c'est plus facile, je pense, de faire rire avec la vulgarité qu'avec les choses plus sérieuses ou les choses plus carrées, plus droites.
Bah oui.
Ou avec plus de, peut-être, de valeur.
Que... Oui, exactement.
Et moi, j'ai une petite question sur ton nom de scène. Je pense déjà avoir la réponse, mais quand tu dis Austin Power, c'est un rapport avec Austin Power?
Bah, en fait, ça.
Pas du tout.
En fait, c'est un rapport dans le sens où c'est un rapport parce que ça rappelle ce nom-là. C'est voilà. Que les gens, en fait, l'ont déjà entendu.
La première fois, moi, j'ai tout de suite, oui, j'ai fait le rapport.
Ouais, t'as fait le lien. Moi, je l'ai pris parce que, moi aussi, ça me rappelait ce truc parce que je m'appelle Austin, Austin. Ouais. Ouais, j'aimais bien l'énergie parce que bon, j'ai une énergie ici qui peut varier selon les trucs. Et je me rappellerai toujours au Comedy Club, on mettait toujours premier. Toujours, toujours. Et tu regardes même dans la plupart des scènes, Hussein, quand il disait Hussein Power, c'est en premier. Pourquoi? Parce que, en fait, j'arrivais, j'arrivais en mode, même silence, j'arrivais en mode silence. Et j'arrivais à monter un peu doucement, en fait, au fur et à mesure l'énergie pour finir sur un truc assez euphorique avec les gens. Donc, moi, je dis pas que c'est truc, mais ouais, j'arrivais, alhamdoulilah, tu vois, à faire ça. Et j'ai, au Comedy Club, j'étais tout le temps premier. Tout le temps, ils disaient ouverture de balle, c'est aussi.
En plus, c'est vrai, moi, j'ai eu
la. C'est la position la plus dure, en plus, je veux dire.
Comment?
C'est la position la plus dure.
Ah oui, c'est clair.
Franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup servi.
Parce que la salle est, comment dire, les gens sont froids au départ.
Ils viennent rigoler, et donc le premier, ils sont là, c'est vas-y. Alors, c'est quoi la soirée? C'est toi qui vas déterminer la soirée, en fait.
C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, pour peut-être t'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, et puis aussi peut-être aussi à Mohamed et puis à Anes, c'est que moi, j'ai eu la chance de te présenter deux fois sur scène, une fois à Genève, tu te rappelles, dans un dîner gala à Genève, et aussi en Haute-Savoie, à Bonneville. Exactement. Et c'est vrai que t'étais passé aussi, c'est moi qui avais fait la programmation, et c'est vrai que t'étais passé le premier.
Exactement.
Alors moi, j'ai pas pensé au Jamel Comedy Club, j'ai fait ça, voilà, comme ça.
Non, mais c'est parce que, après, c'est l'énergie, j'aspire peut-être, je sais pas, c'est confiance, ou même juste...
C'est la barre.
Ils disent, lui, ouais, lui, là, la chasse, lui, il va aller choper, lui. Et moi, j'aime bien aussi.
C'est un profil qui permet de justement débrider la salle, et tout de suite, ça donne
le feeling. Et puis, je pense aussi le feeling, il y avait eu un super feeling. Et c'est vrai que moi, je peux témoigner que Austin Power, si vous avez la chance un jour de le voir en vrai, sur scène, ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être vu. C'est vrai, c'est sincère, c'est la vérité. Je dis ça, voilà.
Il ne faut pas le voir. Là,
c'est tout ça, merci.
Je l'ai déjà dit. Non, c'est vrai, je t'ai déjà dit. Voilà.
Moi, je n'irai pas le voir dans la cage, en tout cas.
Pas dans la cage. Moi, j'ai eu la chance d'assister deux fois, parce que voilà, comme j'animais et j'organisais, donc j'ai eu cette chance d'être aux premières loges. Et c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être vu et qui assure sur scène.
Merci.
Et vous n'allez pas regretter.
Ouais, et encore, tu m'as vu dans les lives. J'ai évolué encore. Je pense que par rapport à ce que j'avais vu avant, j'ai encore évolué.
Comment?
Dis-moi, j'avais la deuxième.
J'ai encore évolué, en fait, par rapport à l'époque où tu m'as vu.
J'imagine. Et j'ai hâte de voir ce qui nous réserve.
Ah, c'est extraordinaire. J'espère.
Inch'Allah.
Il y a Jamel qui est dans le secteur. Je sais pas si on. Il est en train de faire des pompes, là. Je sais pas ce qu'il prépare. Jamel Kaibou, vous le connaissez.
On connaît très bien Jamel.
Ils sont dans un studio.
Ma
deuxième question, Hussein, a été liée aux réseaux sociaux.
Oui. Les réseaux cas sociaux, moi je les appelle parce que.
Ouais, exactement, c'est ça. Donc on se posait la question, Anas et Seb, on avait une discussion sur l'impact des réseaux sociaux sur un travail accompli. Notamment, c'était pour l'humanitaire, mais je pense qu'on peut, rebondir sur d'autres branches d'activité. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, ça reflète la qualité de ton travail.
Pas forcément.
Est-ce que l'indicateur pour toi, c'est le nombre de vues, le nombre de... Voilà, c'est ça.
Aucun,
c'est ça la question.
Aucun rapport. Aujourd'hui, je peux te dire, il y a des gens que je connais qui sont très bons et ils n'ont pas d'abonnés sur Instagram. Il y a même des gens très connus hein, qui, si vous regardez, s'ils sont sur Instagram, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais j'en connais. Et... Non, il y a des gens qui ont pris le côté réseaux sociaux et qui ont cette facilité, tu vois, de travailler sur les réseaux sociaux et de balancer des choses et tout. Il y en a qui sont à l'aise avec ça. D'autres, moi, par exemple, mon réseau social, bon, alhamdoulilah, on l'a fait, tu vois. Mais des moments, moi aussi, j'ai une certaine limite, tu vois. C'est-à-dire que je suis un peu pudique aussi par rapport à plein de choses, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas la vache 24 à montrer. Regardez, je suis en train de manger des œufs. Regardez, je suis en train d'acheter du pain.
Tu vas dans le sens d'Anès. Anès, c'est l'école, la vie.
Mais aussi dans mon sens.
Non.
Alors si tu as pas compris.
Vous embrouillez pas, hein, parce que.
Comment?
J'ai dit, vous embrouillez pas, hein, comme ça je.
Oh. Il peut y avoir qu'un seul qui va en Turquie. Il n'y aura qu'un seul en Turquie. Il y a un seul voyage.
Non, moi j'aime bien ma fartasse, je ne vais pas en Turquie.
Ouais, ça te va bien.
Non, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a ce côté pervers.
Oui.
Narcissique. En disant, voilà, j'ai tant de vues, j'ai ça, je vais surenchérir.
C'est une
jusqu'à...
course avec, etc. Je pense que il peut y avoir du réseau social sain, ça existe, hein. Moi, il y a des associations qui ont des réseaux, je suis pas en train de critiquer les gens. Moi, j'ai les réseaux sociaux, donc je pourrais me critiquer moi-même. Mais je me dis, en fait, ça a une certaine limite et il faut savoir, en fait, les doser. Et je pense que les gens qui sont trop axés sur les réseaux sociaux, à un moment donné, ça capote. C'est trop sur l'écran, t'oublies de voir les gens, la réalité, quoi.
Donc c'est le cas aussi, en tout cas c'est le cas aussi,
oui.
Parce que toi tu fais du partie du spectacle, donc spectacle c'est la visibilité, c'est de se mettre en avant,
c'est la promotion,
etc. Donc toi c'est le cas aussi dans le spectacle divertissement et l'humour.
Oui.
Moi je pense, Hassine, que les réseaux sociaux c'est bien pour lancer, par exemple ça peut être bien pour lancer une carrière, ça peut être bien pour la promotion d'un nouveau spectacle. Moi je parlais des réseaux sociaux, je parlais pas de comme tu disais, j'ai acheté un nouveau fromage, j'ai acheté un nouveau parfum.
Oui, il y a du réseau
voilà, social. Ça, pour moi,
quand je vois, moi par exemple, je vais dire réseau social sain, c'est un bien grand mot, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui font des bonnes actions. Faut appeler un chat un chat. Les réseaux sociaux, il y a pas que du mauvais, c'est comme le téléphone portable. Aujourd'hui on a un téléphone portable, ok, toi tu décides de ce que t'en fais. Tu peux faire du bien comme tu peux faire du mal, on est d'accord. Tu peux regarder des choses bien comme tu peux regarder des choses mal, et les jeunes aujourd'hui ils le savent très bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit, les réseaux sociaux c'est toi qui en fais ce que t'en veux. Mais aujourd'hui il y a tellement, comme on dit, une masse, une boule de gens et de trucs, de TikTok, de tac-tac, de TikTok, tu comprends plus rien. Donc il y a tellement de gens, et donc c'est dire que
le Snapchat, etc.
Exactement, c'est la course aux réseaux sociaux, et tout le monde est là. Et tout à l'heure aussi, j'ai croisé quelqu'un, il me dit, le Snapchat, je connais rien, je veux pas. C'est les réseaux sociaux, les gens sont un peu trop. Moi, je dis, quand c'est trop de réseaux sociaux, en tout cas pour les jeunes, si c'est un conseil à donner pour les jeunes. Tu peux suivre des choses bien, comme dit, il y a des gens qui font des actions humanitaires. Moi, j'ai vu des associations, en fait, par exemple, ici dans le secteur, qui ont des réseaux sociaux pour faire des maraudes, qui montrent des trucs, qui appellent les gens pour aider. Donc, je trouve ça, c'est magnifique, tu vois. C'est très bien. Ou même, il y a des gens qui font des rappels, ça, je trouve ça magnifique. Tu vois, par exemple, quand tu vas, il y a certains frères, maintenant, aujourd'hui, ils ouvrent des comptes de réseaux sociaux avec des hadiths, avec, par exemple, des ayats du Coran. Il y en a qui vont... C'est bien, il y en a qui vont le tirer dans un autre sens, tu vois. Et donc, je me dis, il faut qu'il y ait cet équilibre, que les gens s'y retrouvent, quoi.
Mais trouver le juste milieu.
Beaucoup plus, des fois, de comme tu as dit, tu vas sur Instagram, par exemple, juste tu ouvres Instagram, tu commences à descendre, je te dis, va dans le truc home, et je vais regarder si tu peux regarder plus de 10 minutes. Juste ça.
Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison.
Donc voilà, c'est juste ça, je me dis.
On voit pas, mais c'est vrai.
Voilà. Donc c'est mon humble avis. Je juge pas, mais moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que je m'autocritique aussi, tu vois.
C'est moi, je parle de l'utilisation qui en est faite.
Toi, tu t'en sers plus, pense, comme un outil, comme je disais, de promotion, un outil de lancement, un outil de marketing. C'est pas, voilà. C'est, et moi, c'est ça que je disais, que pour moi, Oui. Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, mais je trouvais que c'était bien dans, de ce côté.
Bah, aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de publicitaires. Bah, t'as Fitness Park, ils ont leur Instagram. Ouais. Free, ils ont leur Instagram. Les gens, ils peuvent leur communiquer. Donc, en fait,
même toutes les marques
ont des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, oui, c'est oui. Des grands groupes, mais ils ont des réseaux sociaux. Donc, ouais,
ils savent que ça fonctionne.
Ouais. Bah oui, c'est parce que ça amène des gens. Après, il y a un système de publicité. Si tu veux de la visibilité, tu payes. Bah voilà, t'as de la visibilité, ils peuvent t'amener. Donc après, voilà, chacun.
Donc pour revenir au parcours de Hussein Power, il a 14 ans, il est surdoué, il est au lycée, donc en maths sup, je crois, c'est ça, c'est là où tu as un déclic, où tu te dis.
Tu as
la première question et toi, tu as commencé par la 30e, bien sûr, tu as les équations à plusieurs inconnus avec des variables.
Mais avec que des inconnus.
Là, tu as ta copine de classe, ta camarade de classe qui dit tiens, toi, tu es un humoriste, tu dis ah, j'avais besoin de toi pour que tu me le dises, je suis humoriste. Ah, ouais. Tu te lasses, tu te lances dans la MJC à Corbeil-Essonne, c'est ça?
Oui. Exactement.
Avec un public essentiellement caucasien, blanc de peau, pas de gars de quartier, bien sûr. Et là, tu fais un succès, tu montes en puissance et tu arrives à adhérer au Jamel Comedy Club, à avoir d'autres connaissances, etc.
Exactement.
Et tu montes ton propre collectif qui est un petit peu sur le modèle Jamel Comedy Club avec plus de proximité, c'est ça, non?
Ouais, bah sur Internet, quand on a fait des vidéos.
Voilà. Et là, aujourd'hui, où c'en est où?
Aujourd'hui, j'ai...
Aujourd'hui, tu as 18 ans parce que c'était...
J'avais 17 ans,
au lycée.
Aujourd'hui, j'écris scénario, série. Donc, je suis devenu un auteur, même si je suis toujours humoriste. Bah, bon, forcément, confinement, il n'y a pas d'humour, donc j'écris série, long métrage, court métrage, donc je suis auteur en fait aujourd'hui.
D'accord, et comment on devient auteur, c'est quoi? C'est une inspiration personnelle,
J'ai l'impression que ça part d'une envie déjà d'écrire, de dire des choses peut-être. Après, moi c'est ça, c'est que mon téléphone souvent c'est ça, c'est que des fois j'ai des idées qui me passent par la tête, tu vois, en pleine journée, par exemple, je suis en train de marcher et tout, et des fois j'ai une idée, un jeu de mots qui va me venir, je vais le noter, tu vois. Après, je sais pas si je peux vous faire un exemple, mais
tu peux faire un exemple sur tous les deux là tout de suite.
Comment ça? Non, mais je te donne un exemple, je vais pas vous banner, mais je vais dire par exemple
tu peux, on est cool, nous.
Après c'est des histoires des fois qui m'arrivent, par exemple. Il m'est arrivé un truc cocasse il y a pas trop longtemps, j'ai commandé un interrupteur parce que comme je déménageais, je vais changer les interrupteurs. C'était un interrupteur. Et c'est un interrupteur poussoir. Je sais pas si c'est bouton poussoir. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, t'appuies, il se rééteint, en fait. Et t'appuies, il se rééteint. En fait, je suis obligé de regarder ce qu'il y a dans ma chambre, regarder ce qu'il y a, et pour aller le chercher maintenant.
Ouais, j'ai compris, ouais.
Et donc, je me dis, ça, c'est peut-être des idées, tu vois, de trucs, tu vois.
Donc, dans tout ce que tu vois, en fait, dans ta vie quotidienne,
exactement.
Tu vois ce regard caricatural ou décalé.
Il y a une vanne. Tu connais Aqua Boulevard, par exemple. Tu vois, pareil.
Ouais.
Aqua Boulevard, vous connaissez, c'est là où il était au Bougon-Lot. Tu vois, je l'ai noté et je suis passé à côté du périph', je vois Aqua Boulevard. Et je me dis, mais Aqua Boulevard, ils auraient dû le mettre à porte-maillot. Si tu fais le lien. Voilà,
des trucs. C'est à Versailles, c'est ça?
Ouais, ça réfléchit maintenant, tu vois.
Ah ouais, ça va loin.
Et voilà, c'est des petits trucs, tu sais, je me note des trucs, tu vois, c'est des petites notes, si je te montre. Voilà, bon, vous allez screener au cas où, je le montre pas, mais, machallah, et là, il paraît que ça descend, tu vois. Mais j'écris régulièrement, tu vois, je me fais des petites notes, des petits trucs.
Et quand?
Je te jure, subhanallah.
Ouais.
Et des fois, il y a des trucs que, on me demande une idée, je vais regarder dans mon téléphone, pop, tiens, j'ai ça, ou je peux écrire comme ça, et tout. C'est pour ça que si un auteur, je pense que c'est quelqu'un qui aime écrire d'abord. Et après, j'adapte, tu vois, selon les profils. Par exemple, un mec qui me dit, ouais, j'ai envie d'écrire plus sur ça, ben, je vais essayer de l'orienter, de l'aider et tout, voilà, quoi. Donc, c'est spécifique. Mais parce que j'ai vu que, pourquoi j'ai voulu devenir auteur aussi, à un moment donné, ça fait 15 ans que tu fais ça. Et d'ailleurs, je faisais une vanne sur scène et je lui dis, en tant qu'humoriste, je dis, ça fait 15 ans que je fais ça. Et je me suis demandé, quand est-ce que tu réussis, en fait? Là, c'est quand, je dis, non. C'est ça, c'est que, voilà, t'es à un moment donné, qu'est-ce que c'est la réussite? Je me dis, en fait, moi, peut-être que j'ai déjà réussi, mais je ne le sais pas, en fait. Tu vois, au fond, qu'est-ce que c'est la réussite? Tu vois. Moi, je me dis juste déjà de pouvoir gagner sa vie avec un métier que tu aimes, c'est magnifique. Je me dis, ça y est, pas besoin d'être. Tu vois, c'est déjà très, très bien, c'est largement suffisant. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que c'est la réussite? Alhamdoulilah, c'est 15 ans que je fais ça, mais j'ai décidé aujourd'hui de me mettre un peu à aider les autres, parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes qui veulent démarrer, et ils ont pas forcément les codes, et je me suis dit, bah, là, il y a un travail à faire. Pour toi, pour que pas que les gens aillent dans des sujets un peu trucs, je peux dire, voilà, bah, les gars, l'écriture, c'est un peu ça. J'ai fait des ateliers d'écriture avec les jeunes. Là, même là, le tournage que je fais, donc j'écris. C'est-à-dire que j'écris le scénario, je le fais jouer par les jeunes, je le filme, je fais un montage, et je le livre. Donc, tu vois le schéma que je fais. Bon. Et en même temps, t'as bah, j'essaie de leur donner quand même des clés là-dedans, de leur mettre des petites, comme on dit, des petites leçons de vie dedans, et avec des petites morales et tout. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est un travail, c'est un
chemin. Pour toi, c'est la réussite. Le fait de partager un partage d'expérience avec avoir le luxe de pouvoir vivre de
Moi, je les vois, les gens qui rentrent dans les bureaux. Hey, je te jure, moi, quand je prends le métro et tout, moi, je suis comme ça, je regarde les gens. Et je vois les gens, ils sont comme ça. Ils sont dégoûtés d'aller au travail. Ils sont dégoûtés, ils sont déprimés. Moi, je suis content, je vais voir des gens, je vais rigoler, je vais voir des jeunes, je vais parler avec eux. Tu vois, il y a de la vie, quoi. Mais je crois, c'est voilà, quoi. C'est juste ça, je me dis, alhamdoulilah.
Et Hussein, une question qui n'est pas très originale, mais comment tu as vécu, toi, par rapport à la scène, cette crise sanitaire sans précédent, Covid-19? Comment tu as vécu?
Alhamdoulilah, j'ai jamais eu autant de travail.
Alhamdoulilah.
Non, mais en fait,
c'est paradoxal.
Non, mais l'idée, c'est comme tu es auteur, tu peux écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêche. Tu sais, tu peux même fermer Las Vegas, tu peux tout fermer. Moi, j'ai un papier, un stylo, ou un truc que je peux écrire, je vais écrire.
D'accord.
Voilà, c'est pas un problème, quoi. L'écriture, c'est tout le temps. Alhamdoulilah. Non, au contraire, j'ai...
Mais quand même, la scène, parce que toi t'es quand même, t'es un showman, t'aimes le public.
C'est vrai que ça manque. Bah oui, bien sûr.
Voilà.
Ça manque, mais t'es obligé de...
T'aimes les gens.
Heureusement que j'ai mon côté auteur qui fait que je fais le show sur l'écriture, quoi. Je me chauffe pour faire ça, mais bien sûr là c'était confiné, on pouvait pas, il y avait pas de spectacle, pas de théâtre, pas de rien. Aujourd'hui il y avait quoi, les vidéos peut-être, tu vois, encore limite qui pouvaient tourner sur internet, mais bon, excuse-moi, mais c'était pareil, c'était la folie, tout le monde envoyait des vidéos, et le premier confinement avec les lives, les trucs, etc. Donc voilà, les gens inondent, c'est vrai que donc il y a beaucoup plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, beaucoup plus de gens qui consomment. Donc moins de théâtre, moins de cinéma. Là, ça commence à rouvrir, donc ça va remonter, je pense, au fur et à mesure. Les gens vont rappeler au fur et à mesure et ça va se remplir. Ça va prendre du temps, mais voilà, quoi. En tout cas, ça va se relancer, puis on remontera sur scène, inchallah.
Avec quand tu écris ton travail d'écriture.
Ouais.
Tout à l'heure, tu parlais de références d'humoristes, Coluche, etc., qui t'ont inspiré, etc.
Bien sûr.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a parlé des réseaux sociaux, donc la visibilité. Est-ce que toi, tu t'inspires de, sans faire de plagiat, parce que je sais qu'il y a eu une polémique copy-comique, c'est ça?
Bien sûr.
Est-ce que toi, tu t'inspires, ou comment l'humoriste s'inspire de ce qu'il voit, de sa réalité, avec ses lunettes, ses propres lunettes, et en même temps, de la concurrence, entre parenthèses?
En fait, je pense...
Si on dit concurrence.
Là, je pense qu'on s'inspire tous de quelque chose, en fait. Même si des fois, tu t'écris et tu penses que ça vient de toi, c'est... Enfin, je sais pas, moi. Des fois, tu vois des choses, c'est vraiment parce que tu l'as vu, il y a que toi qui l'as vécu. Moi, il y a des choses que, par exemple, je sais qu'il y a personne qui peut dire parce que c'est moi, je les ai vécues. Donc, je les ai vues de mes propres yeux et je les ai notées, tu vois. Donc, quand t'as des trucs de vécu, c'est un peu moins voilable, quoi, tu vois. C'est du vécu. Après, dans l'inspiration, des fois, tout dépend des thèmes que tu choisis. Tu vois, par exemple, si, par exemple, aujourd'hui, notre frère Sébastien, il décide de faire un sketch sur les crânes rasés, voilà, je me dis, ça lui parle, c'est lui qui parle parce qu'il sait de qu'est-ce qu'il
dit. Moi, je me sens pas concerné, franchement.
Tu vois ce que, enfin, c'est parce que tu fais la sourde oreille, ou là, je sais pas, tu fais ce qu'il veut pas voir. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut prendre des thèmes qui te parlent, en tout cas, que tu as envie de traiter. Et je pense que c'est ça le secret. Faut te parler des choses que tu aimes et que tu vis, peut-être,
Après, c'est pas le fait d'avoir toujours quelque chose à dire, quelque chose à produire, qui fait qu'on a.
J'ai pas de demande, un public qui nous attend,
donc il faut produire et que moins de temps et qu'il faut aller chercher ailleurs et chercher la facilité. Ouais.
C'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe peut-être plus sur les dans dans les théâtres, etc. Oui, il y a beaucoup d'histoires de copies comiques, de ça et tout. Mais parce que les gens veulent aller vite, ils veulent tout de suite être succès. Donc après, des fois, peut-être il y en a, ils le font exprès, d'autres moins. Des fois, tu sais que tu peux entendre un truc, écouter un truc, par exemple, voir un spectacle, écouter un truc, l'oublier, hein. Tu reviens et dans ton cerveau, oh, tu sais pas comment ça se mélange. Deux ans après, tu sors, tu crois que c'est toi qui l'as sorti. Ça arrive, tu vois.
Ah, mais on est quand même, t'es quand même conscient de ce que tu, de ce que tu, de ce que tu produis. Enfin, tout quand je
dis, oui, c'est bah, quand même un minimum.
Il
y a des vannes que tu vas dire, par exemple, tellement truc que tu peux.
Ah bon, moi, c'est pas au courant, c'est pas.
Non,
après, c'est moi qui l'ai dit.
Bien sûr, si tu me dis telle ou telle vanne, mais il y a des trucs connus, mais il y a des trucs, si dit, des fois, je sais pas d'où ça peut te venir, tu vois. L'inspiration, elle vient de. Ça dépend de plein de choses, tu vois. Tu sais, quand t'es en vacances, par exemple, je trouve que moi, c'est un moment où j'écris le beaucoup plus. Parce que je vois des choses, je suis en vie, etc. Et tout. Est-ce que tu peux aller me chercher le chargeur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller me chercher mon sac, s'il te plaît? Il est dans la chambre. Parce que je crois que ça va. Il me reste pas beaucoup de pourcents. Je lui dis, au cas où, si ça coupe, vous croyez pas que je vous ai raccroché le nez, mais. Et donc, ouais, je pense que ça dépend des sujets que tu voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, pour moi, c'est tellement évident. Mais si l'inspiration, j'ai l'impression qu'on n'invente rien. On améliore. On peut, avec les nouvelles technologies, créer des nouvelles vannes. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, quelqu'un qui fait des vannes sur le Covid. Bon, ça va être nouveau. C'est maintenant. C'est là. C'est frais. Et puis, d'un coup, au bout d'un an, ils auront fait toutes les vannes. Et à un moment donné, tu vas voir, lui, il a fait cette vanne et l'autre, ah, c'est la même. Ouais, mais peut-être des fois il y a des similarités, hein. Des fois il y a des gens qui réfléchissent pareil. L'être humain, il est amené à se répéter aussi dans la vie, tu vois. C'est un cycle. Oui. Hein. Les gens se ressemblent. Et combien de fois il dit, ah, t'es exactement comme mon pote un tel. Et là ils sont exactement pareils, ils ont les mêmes modes de réflexion. Donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Hussein.
Ouais, frérot.
Toi, t'as jamais été
charger ma batterie parce que.
Ouais.
Ouais.
Je suis mouchkine.
Dis-moi.
Vas-y, pose ta question. Bientôt 15 ans de carrière, t'as jamais été en manque d'inspiration?
Si, ça peut arriver. En fait, des fois, moi, j'ai manque d'inspiration. J'avais des vannes, des trucs et tout, des spectacles, mais je voulais plus les jouer. Tu vois, par exemple. Et donc, je savais plus quoi jouer. Et je me dis, il faut du nouveau, il faut écrire des trucs et tout. Et t'as des périodes comme ça où c'est un peu plus difficile parce que tu dis, il y a des trucs qui marchent, mais toi, tu te lasses parce que forcément, si tu fais, c'est comme si toi, t'as un travail, tu fais toujours la même chose mécaniquement. À un moment donné, t'as envie de changer, faire autre chose.
La routine.
Pareil, je pense que la scène, au bout d'un moment, les gens, ils kiffent. Et puis même toi, après, tu te dis, bon, bah, il faut changer un peu, faire d'autres choses. Et dans un moment, moi, j'étais complètement bloqué, mais il y avait ce côté un peu plagiat. Et tu dis, ouais, bon, bah, vaut mieux que je reste sur un truc que je fais tout le temps. Et comme ça, personne ne me plagie. Et si on plagie, c'est que ça, quoi. Donc, tu rentres dans une mécanique et tu dis, bon, là.
Voilà. On va arrêter 10 secondes parce qu'il y a du bruit derrière.
Ah, il y a du bruit derrière, excusez-moi. Ouais. Je suis vraiment désolé, mais de toute façon, je vous ai dit, je suis pas tout seul, hein.
Alors.
On a beaucoup de temps ici.
En coloc, c'est, voilà. Un vendeur de sommeil, c'est ça?
Exactement.
Marchand de sable.
Ah, je prends 10% sur tout le monde.
Il y a
12 Pakistanais, ils sont dans la cuisine.
Biryani. Et autour de toi, ta famille, donc jusqu'à présent, t'as toujours suivi, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Mm-hmm. En partie, il y a des gens qui vont arrête tes bêtises, va trouver un travail, va faire mécanicien, c'est mieux, tu te rappelles le conseil d'orientation.
Et là, est-ce que tout à l'heure, on parlait de comiques, ceux de France, mais est-ce que t'as de l'inspiration qui sont ceux de l'étranger? Parce que je sais que les Américains sont.
Bah, moi, j'ai
regardé. En avant sur des sujets de société, qui arrivent beaucoup plus tard, peut-être en Europe ou en France. Comment?
Il y a que un an ou deux ans en arrière que j'ai commencé à regarder les Américains. Parce que je voulais pas
D'accord. du
tout regarder pour pas m'inspirer, d'avoir mon truc et tout. Et eux, ils vivent des choses que nous, on vit pas forcément. Donc, je me dis. Bon, tu vas regarder pour t'inspirer, forcément, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que je peux prendre, en fait? Ouais, j'ai dit la mécanique des Français. Et tu sais que c'est typiquement français, en fait, hein. Je veux pas faire de problème. Mais, Molière, par exemple, j'ai vu des petits écrits où lui aussi, il prenait des choses à droite, à gauche et tout, hein. Donc, c'est-à-dire, je me dis, c'est un peu comme c'est dans la culture, tu vois, un peu culturelle, tu vois, culturellement. Et j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, c'est comme ça. C'est qu'il y a un truc qui te plaît, tu peux l'adapter, le reconstruire. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et je pense que je préfère, moi, avoir une originalité, mais j'aime bien écrire des trucs vraiment, voilà, que j'écris moi-même, que je vais essayer de penser moi-même. C'est plus difficile, ça prend plus de temps, peut-être, tu vois.
Alors, pourquoi il y a que 2 ans que tu t'es intéressé?
Parce que j'ai lu Copy Comics et tout, et je me suis dit, ah bon, ils volent des trucs. Je me dis, comment ils font, tu vois? Et j'ai voulu, et il y a des artistes que je me dis, ah, ils sont super bons. Ah ouais, bah, ils sont très, très forts, d'ailleurs. Ils ont un humour qui est différent. Et d'ailleurs, eux, ils ont un humour, bah, c'est vraiment différent. Hein. C'est vraiment différent. Après, il y a des vannes qui sont adaptables, hein, d'ailleurs, après. Mais je pense que ils sont dans un autre univers. C'est un level. L'humour chez eux, c'est de l'entertainment. C'est-à-dire que ils remplissent des stades, des zéniths, des trucs. C'est leur folie, quoi. Tu vois juste Kevin Hart, tu vois des mecs qui sont, je sais pas, comme Dave Chappelle, etc. Et tout, qui sont remplissent des trucs. Tu dis, ouais, c'est impressionnant. C'est des princes, tu vois. Limite, c'est des présidents de la République, quoi. Tu sais, c'est tapis rouge. Ici, limite, c'est, hey, les rigolos, venez. Ah non, c'est maintenant, vous passez dans 2 minutes, là, ok? Allez, c'est parti, tu vois, t'as l'impression que c'est pas du tout la même école, quoi. Après, ils ont une certaine classe, les Américains, tu vois, ils ont du bagou, etc. Mais ils ont mis une autre truc sur la culture, sur l'humour. Ils ont vraiment un truc vraiment très, très spécial avec le stand-up. D'ailleurs, ça vient de là-bas, hein, ça vient pas de Bobigny, hein.
C'est sûr.
Jamel, je dis Jamel.
Ouais, parce qu'il est dans
le Ah, parce qu'on voit qu'il bouge l'ordinateur dans tous les sens. Et je sais
ah,
pas,
ça y est, c'est l'heure. Là, ça fait 1 heure, là, je commence à... Là, je regarde le timing, attention. 3.
Non, bon. On va...
Je rigole.
On termine toujours le podcast par des questions... T'avais d'autres questions, Sam?
Non, je pensais... Non, très bien.
Ouais.
On a fait le tour, je pense.
Voilà, on termine toujours notre podcast par 2 questions. Donc, la première, c'est si tu devais te définir en 3 verbes, lesquels tu choisirais?
Aimer, partager et jamais voler. Jamais plagier.
Pas mal, bien joué.
Aimer, partager, ne pas voler.
Ouais.
Normalement, c'est 3. Bon, on valide.
On valide.
Anes, il pensait que tu allais dire rire.
C'est possible, mais je pense qu'il n'y a pas le rire. Le rire, oui, c'est l'action.
Il est bloqué.
Il a dit, je suis bloqué. Je vais voir, je vais te débloquer.
Non, tu disais, le rire, c'est l'action. C'est le résultat.
Ouais, c'est ça. C'est parce que y a tout un travail. En fait, moi, je ne vois pas forcément, je vois pas le rire. Je vois vraiment un partage, en fait. Une discussion, en fait, entre les gens, enfin, un artiste et quelqu'un qui est sur scène et les gens, quoi. Un échange, et des fois, ils se reconnaissent, et tu parles avec eux, et t'avances dans une histoire, et c'est un partage, c'est un moment de partage. C'est comme les conteurs, tu vois. Tu sais, ils sont pas là pour faire rire, mais ils te racontent un truc qui fait qu'il va te prendre une émotion, et qui t'emmène, et qui t'embarque. Et tu dis, ah, c'est bon, on a passé un bon moment avec cette personne.
Donc, ça, c'est le côté partagé, en fait.
Exactement.
Oui. Ok. La dernière question, c'est si tu devais faire une randonnée, ou plusieurs, avec un personnage, historique ou pas. Donc ça peut être un proche, un moins proche ou un personnage historique. Sauf, t'inquiète pas, il n'y a pas de question piège, tu ne vas pas me demander la première question de la 5e ou de la 10e à la fin du podcast. C'est les prophètes et les compagnons.
Ok. Sauf les prophètes et les compagnons.
Ouais.
Ah, avec des tabirines.
Une randonnée dans laquelle tu passerais une après-midi, une journée à pouvoir discuter et... Sérieusement,
un personnage, je sais pas moi. Peut-être vraiment, j'aurais peut-être un personnage, j'aurais bien aimé connaître peut-être l'émir Abdelkader. Je sais pas si vous connaissez.
Ouais.
Mais je trouve que ouais, son histoire a pas été mise trop en valeur. Et je sais qu'il y a une histoire qu'il est avec la France. J'aurais bien voulu un peu en savoir plus, un peu sur. Et surtout ouais, que moi, je suis né en Algérie, je suis né à Mascara, qui est la ville de l'émir Abdelkader, mais j'en connais pas plus. Je sais qu'il y a des truc et tout, mais je me suis renseigné un petit peu, mais peut-être que j'aurais bien aimé comprendre un peu son histoire un peu.
Si tu m'avais dit que t'étais le Mascara dès le début,
t'aurais...
Voilà, on aurait commencé déjà par ça. C'est les Mascara, c'est un peu les Belges de l'Europe.
Non, c'est vrai, ils beaucoup se moquent d'eux, mais les Belges aujourd'hui, ils ont.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai.
Ça va être réglé. Ouais, donc, Emir Abdelkader, c'est ça, de par son côté historique, son lien avec la France et le combat qu'il a mené pour la décolonisation.
Exactement.
Ouais. T'as une autre personne ou...
C'est une autre personne ?
Non, je demande comme ça. T'es pas obligé, hein. La fenêtre est ouverte, tu peux sauter et te sauver.
Ouais, après, j'ai dit, je sais pas, j'aurais peut-être vraiment un artiste, peut-être comme Raymond Devos aussi, pareil, je vois. Ouais. Bah, c'est des hommes, en fait, tu vois, ou Coluche aussi, tu vois. Je me dis, bah, c'est ça, c'est un peu spécial. Bah, t'as ouvert la porte, ça y est, je suis rentré par la fenêtre.
Non, vas-y.
Mais ouais, des gens, peut-être un artiste, peut-être de l'époque, tu vois, pour me dire comment, tu sais, comprendre un peu comment eux, comment ils vivaient ce truc-là de la scène, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les codes sont complètement différents par rapport à ce qu'eux avaient vécu, et je me dis, ouais, juste de connaître ça et ça aurait été intéressant.
Ah, peut-être parce que eux, après, c'était à l'époque, après les années. Début des années 70, donc 70, les 68 heures, il est interdit d'interdire, on parle de tout, etc. Donc ils avaient plus de liberté d'esprit, d'expression.
Voilà. Mmh. Ouais. C'est possible.
Voilà. Hossein, tes prochaines apparitions sur scène après Covid, ça se passe où et comment? Où est-ce qu'on peut te trouver?
Eh bien, pour l'instant, je n'ai accepté aucune scène, sauf celle de Seb, s'il m'avait proposé, mais j'ai dit sur un truc. Mais pour l'instant, je suis plus sur l'écriture.
D'accord.
Je suis sur l'écriture d'une série pour le mois de septembre. Là, je vais
faire
un tournage, on va finir le montage, etc. Tout ce qui se passe, tout ce qui est technique après. Et voilà, quoi. Sinon,
cette série, elle concerne quoi exactement? Ça concerne quoi, cette série?
Bah, c'est pour les jeunes, j'aime bien travailler avec les jeunes, là, c'était pour...
D'accord, la... ok.
Mais elle sera diffusée où, Hossein?
Bah, déjà, je pense que ça va être sur le web. Mais ouais, c'est la mission locale qui va s'en charger. Et je te transmettrai, Sébastien, le lien de tout ça, Inch'Allah.
Ok, Inch'Allah, avec plaisir. Seb, t'as quelque chose à rajouter?
C'était un plaisir aussi de partager ce moment avec vous.
Ben, nous aussi, on a eu beaucoup de chance de t'avoir parmi nous.
Moi, j'ai eu une chance de la connexion, elle n'a pas voulu au début. Une fois, deux fois, trois fois, on a galéré, mais au final, on a réussi à...
C'est comme au cinéma, c'est les plusieurs prises.
C'est ça, c'est comme ça.
Est-ce que sous ton bonnet, t'es comme nous ou pas?
Non.
Le jour où on va se croiser, j'enlèverai mon bonnet et on discute.
Moi, j'ai déjà vu son bonnet. Non, il a de très beaux cheveux, Inch'Allah. Barakallah.
T'as une belle culture.
Tout à fait.
Hossein, barakallah fik.
Oufik, barakallah.
Merci pour ta présence. Ouais. Merci pour d'avoir accepté l'invitation.
Ouais. Merci beaucoup, Hossein.
Je te souhaite plein de bonnes choses.
Et vous,
On se retrouve.
Bonne randonnée dans les pensées des gens.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Hossein, on reste en contact. À très bientôt. Merci.
À très bientôt. Merci.
Au plaisir.
Et
passe le bonjour à... Passe le bonjour, Salem, à tout le collectif de Open Barb.
Je vais lui passer, j'avoue, il y a la casquette. Merci. À bientôt.
Merci à toi.
Salam alaikum, les randonneurs de la pensée.
Salam.
À bientôt, Inch'Allah.
À bientôt.